20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission que nous avons programmée à la suite d'un certain nombre de messages des auditeurs de l'heure du crime. Vous savez que on vous le rappelle très régulièrement au cours de cette émission, si une affaire criminelle vous a particulièrement marqué, vous pouvez nous laisser un message à la page de l'heure du crime sur rtl.fr et avec des coordonnées pour qu'on puisse évidemment parler de l'affaire avec vous, savoir ce qui vous a particulièrement frappé. Et ensuite, on organise, comme on va le faire aujourd'hui, une émission sur cette affaire qui nous a été signalée par les auditeurs. Et là, il faut dire que c'est une histoire terrible, c'est l'horreur à l'état pur, l'histoire du plus grand tueur en série de l'histoire du Canada. Il s'appelait Robert William Picton, il s'appelle toujours, il a 68 ans aujourd'hui et il continue à purger sa peine de prison à perpétuité, un agriculteur de la banlieue de Vancouver qui a tué en une vingtaine d'années, au bas mot, une cinquantaine de victimes, peut-être plus, on verra cela dans un instant avec mon invité, et il donnait les corps de ses victimes à manger à ses cochons, car c'était un éleveur de cochons. Pour en parler, il n'y a qu'une personne que je connaissais parce que j'avais lu il y a quelques années son livre, un livre absolument magnifique, paru chez Grasset dans cette collection qui fait partie de mes livres de ma collection de chevet. Ceci n'est pas un fait divers. Élise Fontenaille, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Votre livre est paru en 2010. Il a obtenu d'ailleurs le prix Erckmann Chatrian la même année. Et vous vous êtes intéressée à cette histoire que nous allons décrypter ensemble tout au long de l'émission. Il y a une raison à cela, c'est que vous avez vécu vous-même dans cette région de Vancouver pendant, je crois, près de 2 ans.
Oui, j'ai vécu là-bas pendant 2 ans et je passais souvent dans le quartier où du drame, en fait. Et j'y suis retournée souvent. Et le sort des Indiennes et des Indiens du Canada me passionne particulièrement. Et il se trouve qu'il en est question dans cette affaire dramatique.
Voilà, parce que je ne l'ai pas précisé, effectivement, les victimes de ce tueur en série étaient toutes des Amérindiennes.
Ou métisses, voilà.
Métisses d'Indiens, de Noirs, beaucoup de prostituées. Et quand vous parlez, et toxicomanes, et quand vous parlez de ce quartier de Vancouver, il faut en dire un petit mot parce que c'était le vivier dans lequel ce tueur allait se servir, si vous me passez l'expression.
C'est ça, de toute façon.
Plein centre-ville de Vancouver, une des villes les plus modernes du monde.
La plus belle ville du monde, mon avis.
Avec cet enfer.
Oui. En fait, il faut savoir que Vancouver est devenu une plaque tournante de la drogue, de la drogue dure, des drogues dures notamment, des pires des drogues. Et la conjonction de cette plaque tournante de drogue dure et la fragilité terrible de ces jeunes filles ou de ces enfants amérindiennes qui sont souvent devenues junkies presque au seuil de l'enfance. Et puis comme toute junkie, pour payer leur drogue, elles se prostituaient. Et c'était le cercle infernal et qui là les amenait à la mort. Voilà. C'est vraiment une tragédie.
Alors il y a ça, et on va continuer le tableau, il est très noir. Hein.
Hélas.
Il y a, et il faut appeler les choses par leur nom, il y a un racisme contre qui s'exerce sur les Amérindiens, et notamment dans cette ville de Vancouver.
Partout au Canada.
Un chiffre quand même, en 30 ans, plus de 500 femmes ont disparu des Amérindiennes, et notamment au bord d'une autoroute. C'est comme un peu ici, vous savez, les disparues de la 6, mais elles se comptent heureusement sur les doigts des deux mains. Là-bas, 500 jeunes femmes disparaissent pas d'enquête quasiment ou peu de la police. Et cette autoroute au bord de laquelle beaucoup de ces femmes ont disparu, on l'appelle l'autoroute des larmes.
Voilà, voilà. Et en fait, c'est souvent même pas des jeunes femmes, des très jeunes filles. Des jeunes filles de 13 ans, parce que en fait, les réserves indiennes sont disséminées tout le long de cette autoroute. Ces jeunes filles, il n'y a pas de transport public, les jeunes filles ont très peu d'argent, et puis de toute façon, elles n'ont pas les moyens de se déplacer. Et quand elles veulent voir leurs cousins, leurs amis, aller au cinéma, etc., ou même aller à l'école, elles font du stop. Et là, elles sont prises en stop par des prédateurs qui les assassinent et sans doute, semble-t-il, les font disparaître dans ces immenses incinérateurs à bois, puisque c'est une ville de... Enfin, comment dire, c'est un pays de bûcherons. Ouais. Et en fait, elles disparaissent certainement là où disparaissent les copeaux. Et donc, on ne les retrouvera jamais. Et la police fait des recherches uniquement quand une jeune fille blanche disparaît. Et ça, c'était vraiment caricatural parce que sur 30 jeunes, toutes jeunes filles, et puis pas du tout des prostituées, hein, des jeunes filles comme vous et moi, si je puis dire, des jeunes filles ordinaires, amérindiennes, disparaissaient. La police ne faisait rien du tout. Mais une fois, une jeune fille blanche, blonde, aux yeux bleus, a disparu. Alors là, tout le monde s'est précipité. C'est d'une injustice, mais intolérable.
Et derrière ce drame, il y a des familles, parce que ces jeunes femmes, ces enfants ont des familles. Et la seule manière que ces familles, ces proches ont eu de se souvenir de leur disparu, c'est de donner leur nom dans des parcs publics, à des bancs, parce que c'est une coutume. Il faut dire que c'est une ville verte, Vancouver.
Oui, très, très belle ville.
Il y a beaucoup de parcs. Ouais. Et sur certains bancs, on voit un nom.
Voilà, j'ai photographié ces bancs. En fait, il y a des cohortes de noms, parce qu'il y a eu tellement de disparus que, pour ce qui est des disparus, il y a une douzaine de noms, mettons. Alors que sinon, des bienfaitrices ou des bienfaiteurs font graver le nom de quelqu'un, d'une seule personne disparue. Mais là, il y en a tellement qu'il y a 12 noms de jeunes filles amérindiennes qui
faut
ont disparu
payer
à
pour
jamais.
Ça.
Oui, il faut payer très cher. Ouais. Voilà, donc,
et de temps en temps, il y a des cérémonies indiennes, parce que voilà, parce que personne ne peut se résoudre à rester sans nouvelles de quelqu'un de proche.
Oui, en plus les familles, c'est très important pour les tribus amérindiennes. En fait, c'est quelque chose d'assez déchirant, mais qui continue malheureusement, parce que l'affaire des disparus elle-même, enfin l'affaire Picton, disons, pas l'affaire des disparus, mais l'affaire Picton est close, puisqu'il est en prison, mais malheureusement, l'affaire des disparus continue à travers tout le Canada, et je pense à travers toutes les Amériques, puisque c'est partout le même sort des peuples premiers.
Qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant pour vous? Parce que vous étiez là-bas, je ne sais pas ce que
j'ai suivi mon copain de l'époque qui était coopérant dans un journal francophone, et puis le lendemain de mon arrivée, j'ai trouvé un travail d'attaché de presse en consulat de France, au noir, c'était marrant d'ailleurs, et c'était très intéressant, et puis ça c'était très français. Le consul ne parlait que l'arabe et le russe, et pas un mot d'anglais, et puis il m'a payé au black, c'est vive la France, vive la France.
Et alors c'est au cours de ces jours que, évidemment, vous êtes allé dans ce quartier qu'on appelle Downtown East Side.
J'étais journaliste, donc moi je furette partout, je faisais du journalisme déjà pas mal, beaucoup à l'époque, et puis ma grande passion c'était l'anthropologie, ça l'est toujours d'ailleurs, déjà bien avant, donc évidemment ce qui m'a le plus passionnée c'est la présence-absence des Indiens, et l'Araïda, d'ailleurs je porte un beau foulard Aïda là, l'Araïda d'après Lévi-Strauss c'est une des plus belles formes d'art qui soit, et ça c'était flagrant, que ces civilisations étaient splendides et valaient largement les nôtres.
Les disparus de Vancouver, c'est le titre de ce livre qu'on évoquait à l'instant, signé Élise Fontenay, et que je vous encourage vraiment les uns et les autres à lire, parce qu'il y est question de cette affaire criminelle hors du commun, il y est question de ce racisme ordinaire, de la vie de ces femmes et de ces jeunes filles indiennes. Et dans un tout petit instant, eh bien, nous allons vous raconter comment on s'est aperçu un jour qu'il y avait peut-être un responsable tout près de Vancouver de quelques-unes de nombreuses disparitions, et cet homme s'appelait donc Robert William Picton.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Les disparus de Vancouver, c'est comme ça qu'on nommait dans la presse ces jeunes femmes, parfois ces adolescentes, voire ces enfants qui, d'origine amérindienne ou métisse, comme le disait mon invité il y a un instant, Élise Fontenay, c'est comme ça qu'on les nommait. On aurait dû dire les mortes de Vancouver, parce que ces séries de disparitions sont continues depuis peut-être une bonne trentaine d'années, mais peut-être ça a commencé avant.
Bien avant.
Hein, peut-être qu'il y a donc aussi d'autres serial killers qui sont venus dans cette zone-là. Et en tout cas, nous allons raconter comment on a découvert que Robert William Picton, qui était vraiment le Dr Jekyll et le Mr Hyde, hein, on va le découvrir en parlant de sa personnalité tout à l'heure, comment on a découvert que cet homme, qui était un fermier apparemment, riche fermier, hein, on peut dire quand
même. Riche famille. Lui, je ne pense pas qu'il était forcément riche, mais la famille était riche. Oui. Je dirais qu'il était plus Mr. Hyde que Dr. Jekyll, parce que quand on voit sa gueule, franchement, on a peur.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, j'aurais jamais cru ça de lui. Enfin, »
Oui,
on dit ça tout le temps.
Oui, c'est vrai.
Hein.
Non, c'est vrai. Puis, c'est pas parce qu'on a une sale gueule qu'on est un tueur en série. Non.
Voilà, exactement. Et puis, alors, il faut dire que pourquoi la famille, en tout cas, était très riche, c'est parce qu'on est à quelques kilomètres de Vancouver, dans la banlieue de Vancouver.
Proche.
Donc, les terrains valent de l'or, en fait.
Absolument.
C'est une ferme qui existait avant, puis quand la ville s'est développée, les terrains se sont mis à
avec l'arrivée des richissimes chinois de Hong Kong, là, j'étais là à ce moment-là, dans les années 80, donc là tout a flambé en fait. Voilà.
Mais les Picton, lui, il avait gardé son exploitation.
Et oui, attaché à la terre.
Oui, voilà.
Il y a ses porcs, évidemment.
Oui, avec son frère.
Oui, ses complices.
Et puis un endroit qui, évidemment, fait froid dans le dos a posteriori, qui s'appelait Piggy's Palace.
Oui, parce qu'en fait, c'était immense. Il y a de la place dans la région de Vancouver. Donc, chez nous, les fermes ne sont pas gigantesques, mais là-bas, oui. Et donc, les Picton avaient quand même, bien qu'en banlieue, beaucoup de place. Et il y avait la ferme proprement dite, les bâtiments presque semi-industriels pour les cochons, pour les dizaines de porcs. Et en fait, il y avait aussi un hangar qui servait un petit peu de MJC, de restaurant sauvage. C'était aussi, le frère le prêtait à des œuvres philanthropiques, ce qui fait un peu froid dans le dos. Enfin, c'est vraiment atroce, cette histoire.
Et aussi à des gens qui ne font pas partie d'une association philanthropique dont il faut parler, les Hells Angels.
Oui, qui sont la mafia de Vancouver, que moi j'aimais bien jusqu'à ce que je découvre, parce qu'ils sont pittoresques et folkloriques, jusqu'à ce que je découvre quand même leur relative complicité dans cette histoire. C'est vrai qu'on les voit dans les séries américaines, ils sont sympas, mais là, ils le sont un petit peu moins quand même. C'est des grosses brutes.
Ils alimentent, il faut le dire aussi, le trafic de drogue.
Oui, bien sûr. Ils tiennent le trafic de drogue et d'une main d'acier. Ouais.
Voilà. Et avec cette drogue, on découvrira plus tard que Robert William Picton attirait ses proies, donc ces jeunes femmes ce quartier de Downtown East Side.
Voilà, ses copains, les Hells Angels, lui donnaient des drogues dures et puis les distribuaient à ses proies du Downtown East Side. Puis là, la boucle était bouclée, puis les porcs faisaient le boulot, quoi. Donc c'était vraiment une machine implacable, infernale et parfaite, en fait. Ouais. Une machine à détruire les femmes perdues, parfaite.
Alors, on se pose toujours la même question, Élise Fontenay, quand on découvre comme ça un tueur en série qui exerce, si j'ose dire, depuis des dizaines d'années. Comment cet homme n'a-t-il pas été repéré beaucoup plus tôt et pourquoi n'a-t-il pas été arrêté plus tôt ?
Là, c'est tout simple, en fait. C'est à cause de du caractère de paria de ses proies. Parce que ces jeunes filles prostituées, junkies, amérindiennes, en fait, je crois que les gens étaient plutôt contents qu'elles disparaissent. Et même, en fait, tout le monde devait savoir qu'elles étaient mortes, sans doute dans des conditions atroces. Et à mon avis, ça a dérangé personne.
Mais alors, vous me disiez hors micro, juste avant qu'on commence l'émission, que pourtant, depuis des années, un certain nombre de pistes, quand la police enquêtait, les faisait approcher de Picton.
Bien sûr, mais on disait ce qu'on dit toujours, on n'a pas de preuves, et puis on ne sait pas. Et puis aussi, le problème, c'était le caractère marginal des personnes qui pouvaient témoigner. Souvent des prostituées, souvent des voyous, souvent des gens à la marge qui donc avaient avaient tout à craindre de la police. Ouais. C'est des gens qui ne s'adressent jamais à la police, puisque c'est des délinquants, des délinquantes. Ouais. Tout ce qui risque de leur arriver s'ils vont à la police, c'est qu'elles se font coffrer, tabasser, violer, ouais. Ou pire. Donc, la mécanique était implacable, puisqu'il y avait sûrement plein de gens qui savaient. Pas mal de junkies, il y avait une fille qui s'était fait à moitié tuer, mais il y avait une fille qui avait été témoin de l'assassinat atroce d'une toute jeune fille que Picton appelait Pocahontas, une ravissante enfant amérindienne, qu'il avait vue. Et il avait suffi qu'il lui dise à cette pauvre junkie, si tu parles, il t'arrivera la même chose, bah, je me mets à sa place. Évidemment, elle ne parle pas.
Elle n'a jamais
qui
parlé.
L'aurait cru ? Ouais. Qui croit une junkie amérindienne qui dit « J'ai vu un corps de jeune fille dans la ferme d'un richissime citoyen de Vancouver ?» Personne.
Oui, bien sûr.
Personne.
Alors, pourtant, en 1997, et vous racontez cette partie de l'affaire dans votre livre « Les disparus de Vancouver », en 1997, il y a justement une jeune amérindienne qui va réussir à s'échapper, qui va aller voir la police
oui.
et qui va parler. Qu'est-ce qu'elle raconte ?
En fait, elle raconte que... Mais je crois que c'est plutôt une jeune femme qui faisait le ménage, en fait, je crois, non ? Plutôt. En fait, c'est une jeune femme qui faisait le ménage à qui Picton avait demandé de faire le ménage dans une... dans un de ses annexes. Et qui qui avait fait déplacer le couvercle d'une malle et qui avait vu des dizaines de sacs à main tachés de sang.
D'accord.
Donc là, quand même, voilà, ça commençait à faire un peu trop.
Ouais.
Mais même après cette découverte, ça a duré encore quelques temps.
Mais cette
elle
jeune
a eu
femme,
peur, je pense qu'elle a eu peur. Ou...
Cette jeune femme, c'est elle qui était métisse de noir
Non, c'était pas Sarah De Vries. Non,
Sarah
en fait,
De Vries,
non,
qui
en fait,
est-elle
Il y a toutes sortes de pistes, toutes sortes de faisceaux qui mènent à l'arrestation de Picton. En fait, il y a le journal de Sarah De Vries et un client qui n'était pas un salaud, parce que tous les clients des prostituées ne sont pas d'un femme salopard. Et Wen Lang était très attaché à une petite junkie qui était devenue son amie.
Oui.
Sarah De Vries, qui avait été adoptée par une famille d'universitaires bien sous tout rapport, mais la greffe n'avait pas pris. Et puis elle était tombée dans la drogue, comme beaucoup d'enfants de Vancouver. Et lui, quand il a su, il gardait toujours un contact avec cette jeune fille qui avait un fond vraiment artiste, qui dessinait, qui était un peu sa protégée. Enfin, il lui amenait des crayons de couleur, des papiers. Puis j'ai lu son journal, je l'ai traduit dans les disparus de Vancouver, elle était très touchante. En fait, c'est une jeune fille qui aurait dû avoir un tout autre destin. Puis là, c'est la tragédie des drogues dures. Et en fait, lui, il a dit non. Quand la police a dit, si elle n'est plus là, c'est qu'elle est partie, il a dit non, moi je connais Sarah et toutes ses filles. Elle reste une bonne fois pour toutes dans le Downtown East Side parce que c'est comme un village maudit, mais c'est un village.
Donc il s'est passé quelque chose.
Voilà, ouais. Donc lui, il n'acceptait pas ce que la police disait tout le temps. Elles sont parties. Il savait très bien, pour connaître Sarah et ses amis, qu'elle restait tout le temps là, que Sarah avait des enfants qui était confiée à sa famille adoptive, ouais. qu'elle appelait
elle
régulièrement.
Elle n'est pas partie comme ça, quoi.
Non, aucune. Elle restait, c'est un village maudit, mais un village quand même. Donc, elle restait toute là. Donc, lui, il n'a pas voulu accepter ce qu'arrangeait la police de dire, bon, elles sont parties à l'autre bout du Canada ou alors à Seattle ou n'importe où. Il disait non. Il lui est arrivé quelque chose parce qu'elle me répondait toujours. On était toujours en contact. Et donc, il s'est mis à enquêter. Et de fil en aiguille, comme il savait faire parler les gens, parce que lui, il avait des moyens que la police n'avait pas. Enfin, il avait toute liberté d'agir, en fait.
Oui, bien sûr.
Donc, de fil en aiguille, je pense que quelqu'un lui a parlé de cette jeune femme qui avait fait le ménage et qui avait trouvé ses sacs à main couverts de sang.
Alors, et cette jeune femme qui avait fait le ménage, qui avait parlé à la police en 1997, un juge avait décidé que sa parole ne valait rien et que ça ne valait pas une enquête.
Sûr.
Il a fallu attendre plusieurs années,
voilà.
2002, pour que Robert William Picton soit confondu. On va vous raconter ça dans quelques instants.
RTL.
RTL, c'est
des découvertes,
mais aussi des standards
et des nouveautés.
RTL.
On aime la musique sur RTL.
L'heure du crime
sur RTL.
L'invité de l'heure du crime ce soir, Élise Fontenaille. Élise Fontenaille est l'auteur de ce livre, Les disparus de Vancouver, où elle raconte l'histoire que nous évoquons ensemble aujourd'hui. Et on parlait de 1997 tout à l'heure, il y a eu plusieurs événements, il y a eu cette femme de ménage dont vous avez parlé, mais il y a eu aussi une jeune prostituée dont le nom d'ailleurs n'a jamais été dévoilé publiquement, qui s'échappe, qui s'enfuit de la ferme de Robert Picton. Elle va dire à la police qu'elle a été menottée, poignardée, qu'elle a réussi par miracle à s'échapper, mais là encore, un juge va considérer que les accusations de tentative de meurtre ne peuvent pas être retenues, qu'elles sont abandonnées parce que c'est la parole d'une toxicomane, c'est la parole d'une prostituée. Et d'ailleurs, cette jeune femme ne sera même pas entendue en 2007 au moment du procès de Robert William Picton.
Oui, parce que Picton dit que c'est cette jeune femme qui l'a attaqué, qui a voulu le cambrioler, et le juge dira vous avez beaucoup de chance, ou la police, ou les deux diront à la jeune femme vous avez beaucoup de chance que Picton, citoyen honorable, ne porte pas plainte contre vous, ce qui est quand même un vrai cauchemar.
Donc ne cherchons pas la morale, comme j'ai l'habitude de dire dans cette histoire, il n'y en a absolument pas. Alors, on va raconter maintenant comment l'affaire a éclaté. L'étau, finalement, policier, il y a une coopération entre la police de Vancouver et la gendarmerie royale du Canada. C'est-à-dire que quand même, pour une fois, alors que c'est la guerre des polices aussi, suivez mon regard, il n'y a pas qu'au Canada, là, ils vont unir leurs forces quand même, parce qu'on parle de plus en plus de ces disparitions. Et là, ça va se rapprocher de Picton.
Il y a un jeune profileur qui arrive et qui dit, contre les vieux schnocks de la police de Vancouver, qui dit non, mais là, il y a tout concorde, c'est évidemment un serial killer. Voilà. Et lui, il avait raison. Il a simplement fait son travail, sans les préjugés des autres. Oui. Et là, à force, quand même... Donc, il y a des policiers, un duo de policiers hommes et femmes, qui vient à tout hasard jeter un œil dans cette ferme Picton, quand même. Mais bon, sans grande conviction, disant, il faut y aller, on va y aller, quand même. Oui. Picton n'est pas là, alors ça sent la mort dans cette ferme, mais bon, c'est un élevage de porc, alors pourquoi pas. Et il y a la policière, elle dira avoir été attirée par un congélateur recouvert d'une bâche,
qui se trouvait dans l'enclos des cochons.
Dans l'enclos des cochons, et que les policiers ont quand même un sixième sens. Et elle l'ouvre et là, elle découvre 6 têtes de femmes posées sur 12 pieds de femmes. Et voilà. Et là, la police. L'affaire des disparus a vraiment commencé.
Et il expliquera qu'il avait gardé les têtes parce que les cochons ne mangent pas les têtes.
C'est un détail. Puis c'est des trophées.
Absolument terrible.
Puis il gardait les trophées. Bien sûr. Puis c'était un chasseur de femmes.
Ouais. Et il faut, quand on regarde l'instruction, il faut savoir quand même que même avec ce faisceau d'indices qui rapprochait de Picton, la décision de la perquisition n'a été prise que grâce à un indicateur de police.
Oui.
Donnait des arguments aux policiers, pas du tout sur les meurtres, mais il a dénoncé Picton comme étant le possesseur d'armes, de nombreuses armes, sans posséder de permis.
Voilà,
et c'est
toujours
à cause de ça qu'on a fait la perquisition, quand même.
On fait toujours tomber les criminels pour d'autres raisons que celles de ces crimes. Et donc là, on ne pouvait plus reculer. Et ce qu'a dit Picton quand il est arrivé, un peu plus tard, il a dit sur le ton de la blague, dommage, j'aurais bien aimé en tuer une 70e. Et là, j'en étais qu'à 69. Donc voilà, c'est une sorte de fou, quoi.
Voilà. Mais il a prononcé effectivement ces paroles qui ont été reprises par la
presse. Oui, et puis qui dit qu'il en avait bien tué 69 au minimum, ce qui est vrai.
Alors, il faut dire que... c'est difficile de mettre des degrés dans l'horreur. L'enquête a lieu, on va trouver des ADN de nombreuses femmes disparues, on va trouver notamment des éclats de dents, etc. qui vont permettre
des fragments de bijoux.
Et tout ça va permettre aux enquêteurs réunir les pièces du puzzle. Lui, il réagit, alors vous l'avez dit, il réagit comme ça en disant j'en aurais bien tué une 70e, mais il accepte, il revient sur ses déclarations. Après, il dit c'est pas moi qui ai tué ces.
Oui, enfin, il dit rien. Il a une brigade d'avocats qui le défendent. Lui, il s'enfonce dans son mutisme et il nie. Il nie sans conviction, enfin voilà. Et puis, on, en fait, il s'avère que son frère est forcément complice, puisqu'il gérait la ferme à deux, et sans doute des Hells Angels, parce qu'on ne peut pas faire ça. Ouais. On ne peut pas découper des corps de femmes devant tout le monde, puisque la ferme, elle était entourée de sortes de HLM, ouais, enfin de bâtiments.
Et il paraît, il l'a dit après, dans l'instruction, qu'il découpait les corps, effectivement, au milieu de son... Alors, évidemment, de loin, on ne s'apercevait pas que c'était des corps humains.
Oui, c'est vrai, mais... c'est comme des cochons, mais quand même. C'est ça qui rend cette histoire particulièrement atroce, c'est qu'ensuite, il découpait... C'est quand même le premier cas au monde où un serial killer de près d'une centaine de... L'assassin de près d'une centaine de jeunes femmes découpe les corps devant tout le monde. Ça, c'est quand même unique. Tout le monde le voyait et pensait que c'était des cochons, parce que c'était impensable que ce soit des corps de femmes.
Quand je parlais de degré dans l'horreur, c'est qu'il y avait ce fameux Piggy's Palace où on organisait
des barbecues.
Voilà, on venait de toute la région pour ça. Les porcs étaient nourris des victimes de cet homme. Et une semaine, je crois, avant son arrestation, qui était au Piggy's Palace ?
Le maire de Vancouver. Oui, parce que tout le monde venait.
C'était un notable.
Oui, voilà. Et puis, il y avait ce grand hangar qui prêtait volontiers à toutes sortes de manifestations à caractère philanthropique, plus ou moins.
Alors, évidemment, ça a fait la une pendant des mois de la presse canadienne. Il y a eu un épisode où, comme les policiers sentaient qu'ils n'avaient pas tout dit, on a mis... ce qu'on appelle un mouton dans sa cellule, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui quelqu'un qui était censé être un autre prisonnier, mais en fait c'était un policier qui avait pris voilà le rôle du co-détenu, et à ce co-détenu il a raconté des choses absolument terrible, sans jamais un remords ou un regret par rapport à ses victimes.
Oui, bien sûr, c'est un psychopathe, ça, évidemment, quand même. Mais Mais en fait, il reflète bien l'inconscient, quand même, du Canada et de l'Amérique du Nord par rapport à ces Amérindiens. Le plus bel article que j'ai eu sur les disparus de Vancouver, c'était un papier de 6 pages de Toby Nathan qui disait que le sort des disparus de Vancouver est tel que je le racontais dans Les Disparus. C'est la métaphore du sort que le Canada et les Amériques réservent à leur peuple. Le premier aux Amérindiens, oui, c'est une métaphore frappante de dévorer ce qui était là avant.
Alors, évidemment, il y a la surprise, l'horreur et les questions. Après, on s'est dit, mais quelle a été l'enfance, la jeunesse de ce type-là, quoi ? On va en parler, si vous le voulez bien, dans un petit instant, après la pause.
L'heure du crime sur RTL.
L'affaire des disparus de Vancouver, si vous prenez l'antenne maintenant, cette affaire, on la raconte aujourd'hui sur RTL parce que un certain nombre d'auditeurs nous ont fait part de cette affaire en disant qu'elle les avait, on les comprend, profondément marqués. Voilà, mais quelquefois, ces trois lignes qu'on lit sur Internet, quand on fait les hit-parades contestables, à mon sens, d'ailleurs, des top 10 des grands prédateurs. Le nom de Picton apparaît régulièrement, donc les auditeurs voulaient en savoir plus. Et il se trouve que moi, j'avais lu ce livre que vous avez publié en 2010, Élise Fontenaille, Elle est disparue de Vancouver, chez Grasset, où vous racontez tout, mais aussi, et vous n'avez pas de complaisance, on va le dire tout de suite, avec le côté macabre des choses, il y aurait eu des détails bien plus macabres que ceux que vous évoquez.
Oui, c'était pas la peine.
À raconter.
Ça suffisait comme
Alors,
ça.
Je reviens quand même sur le côté docteur Jekyll et Mr. Hyde, vous dites c'était surtout Mr. Hyde, mais est-ce qu'on peut dire un mot de l'enfance et l'adolescence de cet homme ? Parce que, évidemment, on s'est penché largement sur cette enfance et cette adolescence.
Oui, parce que c'était une fratrie, donc il y avait deux frères, il y avait une sœur qui, semble-t-il, est hors du coup, était une riche femme d'affaires, qui ne vivait pas dans l'enceinte de la ferme. Mais pourquoi, entre les deux frères, pourquoi est-ce que... En fait, il semble qu'il était un peu simplet quand même. Donc on le laissait, je ne sais pas comment dire, c'était un peu un personnage à la Steinbeck. Je pense qu'il était un petit peu débile léger, il me semble. Donc on le laissait... la mère, qui était elle-même bizarre, qui était sans doute psychotique, avait confié le petit frère un peu légèrement débile, ou pas comme les autres, au grand frère. Et donc, qui couvrait ses agissements, et jusqu'où cette protection n'est-elle pas allée ? Moi, je pense qu'il savait, forcément, pas mal de gens savaient ce qu'il faisait. Mais voilà.
Ah, il avait fait une formation de boucher.
Oui, c'est ça. Bah oui, ce qui est assez logique quand on a une sorte d'usine de porc.
Une exploitation comme ça.
Oui, là, c'était assez. Tout ça était normal. Et puis, s'il se passionnait pour la découpe de la viande, pourquoi pas, puisque c'était son métier.
Et alors, je disais tout à l'heure que jamais il n'a exprimé aucun regret, aucun remords sur les disparitions de ses victimes. En revanche, il a exprimé une fois, en racontant justement sa vie, une émotion terrible. Il était sensible à la douleur animale.
Oui, enfin, il s'était attaché à un petit veau et qu'un jour, ses parents, comme tout fermier, avaient abattu le petit veau et il semble que...
On lui a fait manger son veau et, il en était inconsolable.
Je ne sais même pas s'il l'avait mangé, en tout cas, un jour, mais ça arrive absolument tous les enfants qui vivent dans l'enceinte d'une ferme. Depuis Marcel Aimé, les contes du chat perché, on sait ça. Et donc, voilà, mais heureusement, l'immense majorité des enfants à qui on fait manger leur coq ou leur veau ne deviennent pas des tueurs en série. Donc ça n'explique rien, cette histoire. Voilà. En fait, c'est inexplicable.
Alors, justement,
mais c'est très politique comme histoire.
On n'a jamais trouvé, il faut parler du procès quand même, on n'a jamais trouvé finalement réponse aux questions qu'on se posait sur le pourquoi du comment de cette affaire-là. Qu'ont dit les psychiatres ? Je ne me souviens plus, moi, il a dû être examiné.
Les psychiatres, ils disent n'importe quoi. D'accord.
Ne dites pas ça ici. Ils viennent très souvent ici nous expliquer les difficultés d'une expertise psychiatrique, quand même.
Bon, faut se mettre à leur place, quand même. Bon.
Alors, donc, en gros, ils n'ont pas trouvé de clé d'explication.
Mais il ne peut pas y en avoir.
Sauf que cet homme n'avait pas de maladie mentale. Il avait des troubles de personnalité.
Oui,
mais voilà, répertorié.
Oui, il n'était pas schizophrène. Il n'était pas schizophrène.
Donc, il était responsable de ses actes.
Oui, oui. Un schizophrène n'aurait pas pu tuer 100 personnes pendant 20 ans dans l'indifférence générale. Il devait être assez organisé, assez intelligent pour camoufler ses crimes. Bon. Donc, pas fou.
Alors, il y a près de 300 personnes qui ont été citées comme témoins au cours de ce procès qui s'est tenu. Alors, il devait y avoir deux procès. Parce que l'instruction avait des éléments sur un certain nombre de meurtres, mais pas sur d'autres. Et on mais on va faire un premier procès sur, je crois, 26 disparitions.
Oui, c'est ça, voilà.
Et il n'y a jamais eu de deuxième procès.
Oui, parce que de toute façon, il y a tellement de débris, tellement de corps. C'est complètement fou, cette histoire, c'est surréaliste. C'était comme... En fait, on a fait venir des légistes, anthropologues de Charnier du Kosovo. C'était comme le charnier d'une scène de guerre. Donc ça donne une idée de... C'est délirant, cette histoire.
Alors, il faut dire, on parlait du procès, que les jurés et certains témoins ont eu besoin d'assistance psychologique.
Ah bah, bien sûr.
On a nommé des psychiatres aussi, pour venir en aide à ces personnes qui devant les éléments photographiques qui ont été donnés au cours du procès, n'ont pas pu tenir le coup.
Oui, et puis les révélations.
Les révélations, c'est qu'on a trouvé de l'ADN humain. Au moment de l'arrestation, la police demande aux gens qui sont venus acheter du porc chez au Piggy's Palace, et peut-être qu'ils en ont conservé, congelé, de les rapporter à la police. Bon.
Puis on a trouvé de l'ADN de femmes. Même ils en distribuaient parce qu'ils étaient généreux, les frères Picton. Donc ils donnaient volontiers de la chair à saucisse. Et en fait, c'était de la chair de femme. Voilà. Donc là, je pense que c'est ça qui a beaucoup choqué. Surtout que les gens de Vancouver, les WASP, ils sont très collés montés. Donc là, comment dire, ça passait pas trop.
Oui, on comprend que ça ne passe pas.
Ça, c'est sûr.
Alors, là, il a été condamné à perpétuité avec une période incompressible de 25 ans. Oui. Donc il est toujours aujourd'hui à 68 ans en prison.
Ouais. À Dieu ne plaise.
Ouais, il ne sortira jamais.
Oui, ça j'espère. Alors là, comme là, s'il sort, on m'entendra personnellement. Non, je pense qu'il sortira jamais. Non. Mais il est en pleine forme. Je ne sais pas s'il ne s'est pas marié en prison comme l'autre.
Ah bon aussi,
j'en sais rien. Il y a des femmes qui adorent.
Quand vous avez publié le livre en 2010, vous avez eu des réactions
J'étais très contente. J'étais très contente de la réaction d'amis de Vancouver, parce que moi je ne suis pas de Vancouver, je ne suis pas née là-bas, qui ont trouvé que c'était un livre très courageux, qui avait osé dire ce que personne n'avait osé dire à Vancouver, c'est-à-dire insister sur le fait que c'était un drame amérindien. Et ça, j'avais été très très choquée quand j'avais fait l'enquête à Vancouver de voir qu'aucun journaliste ne nommait jamais les victimes comme des Amérindiennes, alors qu'elles l'étaient toutes. Mais là, c'était une sorte de complicité. Et je sais que mes amis étaient très fiers de moi, en fait, du travail que j'avais fait, d'oser dire, ces jeunes femmes sont la plupart des Amérindiennes ou des métisses amérindiennes. Et non, je sais que ça m'a fait très plaisir. Tous mes amis de Vancouver ont vraiment beaucoup apprécié le livre, ont essayé de le faire traduire, mais ça n'a pas passé.
Il n'a pas été traduit.
Non, parce qu'il y a un blocage quand même. Bah oui, ça gêne. Donc, un peu, mais pas trop, quoi.
Ouais. Alors, il faut dire donc qu'il y a également des actions en justice qui ont été entamées par des familles de disparus pour dysfonctionnement d'enquête, pointer du doigt peut-être tout ça.
Oui, bien sûr.
Tout a été abandonné, il n'y a plus de...
Oui, parce que déjà ça a coûté 100 millions de dollars à la province, je crois qu'à un moment ils n'ont plus de sous, quoi, tout simplement.
Ouais.
Et puis, de toute façon, le sort des Amérindiens partout et un tel scandale, j'ai fait beaucoup de livres là-dessus, et quand on traverse les réserves, qu'on voit ces gamins couchés ivres-morts le matin, c'est violent, ce taux de suicide des réserves 20 fois supérieur à la petite ville d'à côté. Mais c'est un scandale inouï dans l'indifférence générale.
Alors, je pense qu'on a satisfait la curiosité de ceux qui nous avaient demandé de parler de Robert William Picton, qu'on va laisser purger sa peine au Canada. On va faire une dernière pause dans cette émission, et après on va continuer à parler de ce thème, ce sujet très important, qui est vraiment mis sous le boisseau, et il y a une véritable omerta, façon, sur ces affaires.
Oui.
Et parce que vous avez publié un livre dont je voudrais qu'on parle un peu dans un instant, Kill the Indian in the Child, tuer l'Indien dans l'enfant. Vous vous êtes intéressé au terrible destin d'enfants amérindiens qui avaient été adoptés.
Des pensionnats.
Voilà, mis dans des pensionnats, peut-être, pour être adoptés, mais ils n'ont jamais été. Et en tout cas, le sous-titre est très clair de ce livre, Le crime d'exister.
20h-21h,
l'heure du crime.
Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime
sur RTL.
Invité de l'heure du crime aujourd'hui, Élise Fontenaille. On a beaucoup parlé de ce livre qui remonte à l'année 2010, donc les disparus de Vancouver. Et il se trouve, Élise Fontenaille, que au cours de cette enquête que vous avez réalisée pour écrire ce livre, vous avez fait une plongée qui n'était pas prévue au départ dans le quotidien absolument méconnu d'un certain nombre d'enfants amérindiens, aux familles éclatées qui vont se retrouver dans des pensionnats. Et
famille même pas éclatée, mais disons que depuis 1885, le gouvernement canadien a ordonné qu'on arrache les enfants à partir de l'âge de 4 ans à leur famille, à leur tribu, à leur village. C'était obligatoire pour les mettre de force dans des pensionnats effroyables, tenus par des prêtres ou des nonnes, souvent catholiques ou anglicans, mais souvent catholiques, et dont le mot d'ordre était « kill the Indian into child ». Donc on arrachait les enfants à leur famille, à leur tribu, à leur village pour les mettre à l'autre bout du pays, parce que c'est immense, le Canada. Donc ils ne revenaient, pour ainsi dire, jamais. Ouais. Et dans ces pensionnats, au pire moment, un enfant sur deux mourait. Et c'était effroyable. Et ils étaient tous victimes de sévices, tous victimes de sévices sexuels. Phil Fontaine, qui est le grand ambassadeur des Amérindiens du Canada, a fait un jour un scandale salutaire en disant à l'équivalent de TF1 en public que lui avait été dans une de ses écoles résidentielles. Il a dit ça en 1996. Que lui-même, à 10 ans, avait été violé par un prêtre, et que sur la vingtaine de ses camarades garçons, tous avaient été les victimes sexuelles de ce prêtre. Donc là, ça a commencé à sortir. Ouais. Un avocat a rassemblé des preuves et a obtenu 5 milliards de dédommagements. Ça montre que ça commençait à la fin des années 90, le scandale commençait à être révélé.
Ouais.
Mais c'est assez récent, le dernier pensionnat a fermé en 1996. Ouais. Et l'histoire que je relate dans Kill the Indian in the Child, elle se passe en 1966. C'est Woodstock. C'est au moment de Woodstock, je veux dire. Et là, c'est l'évasion d'un enfant de 10 ans d'un terrible pensionnat où il avait été victime d'abus et qui mourra de froid et de faim le long des rails. Mais un journaliste courageux, un jeune journaliste courageux, entendra parler de cette affaire, fera de très belles pages, et après, il devra abandonné le journalisme, Ian Smith, à cause de la révélation de cette affaire. Ouais. Parce qu'il avait violé un tabou en parlant du sort des enfants amérindiens.
Et c'est cette histoire donc, que vous racontez dans ce livre au titre anglais, encore une fois, Killed Indian in the Child.
Puisque c'était le mot d'ordre de ces pensionnats.
Paru chez Oscar Édition, Oscar avec un K.
Voilà.
Et ce sujet vous tient vraiment beaucoup à cœur,
on le comprend. C'est bouleversant.
Et il y a un autre livre dans votre actualité, puisque là on a parlé d'un livre qui est paru il y a longtemps. Dans votre actualité, il y a ce livre chez Oscar Édition, et il y a chez Gallimard un album qui vient de paraître.
En même temps que Killed Indian in the Child, Les Filles de l'Aigle. Qui raconte aussi l'évasion de deux fillettes, Aïda, de Vancouver, mais là sous forme de conte. Et puis comme c'est pour enfants, bien sûr, la fin est heureuse.
Ouais. Et pour cela, évidemment, même quand vous êtes à la fois journaliste et romancière,
j'ai lu 15 000 pages de témoignages en anglais sur les enfants survivants quand même qui ont été recueillis pendant 10 ans sur toutes les tribus, y compris Inuit. Ouais. Donc ça, j'avoue, là, c'est un travail de 20 ans, en fait, Killed Indian in the Child. Je le mène depuis que j'ai découvert l'affaire des disparus. Donc, ce petit livre qui touche beaucoup. Là, il y a vraiment des témoignages. Enfin, il émeut beaucoup, Killed Indian. Et je suis contente parce que c'est encore un scandale, encore plus méconnu que les disparus de Vancouver. Et là, c'est 100 000 enfants indiens. C'est pas 100 jeunes filles junkies, c'est 100 000 enfants amérindiens. Et les dégâts sont encore visibles tous les jours dans les réserves. Le taux de suicide 20 fois supérieur des réserves à côté de la ville voisine, c'est dû à ce qui s'est passé dans ces pensionnats indiens où on obligeait les... En fait, c'était un génocide culturel parfaitement organisé. Le gouvernement canadien n'ayant pas les moyens de faire la guerre aux Indiens comme aux États-Unis, ont décidé de les tuer autrement.
Alors, c'est très fort ce que vous dites.
Mais c'est vrai. Mais même Trudeau l'a reconnu.
Oui, mais dites-moi quand même juste une chose, on peut l'espérer, c'est fini depuis quand ?
C'est-à-dire dernier pensionnat a fermé en 1996.
96 ?
Oui, 1996. Ça a duré pendant plus d'un siècle, 110 ans. Bon, le gros des pensionnats quand même fermés dans les années 1960-70 ont été remplacés par des adoptions forcées qui n'étaient guère mieux, mais bon. Voilà, en fait. Mais disons que ça a duré quasiment tout au long du XXe siècle et dans l'indifférence générale. Et en même temps, tout le monde se doutait, c'est un petit peu comme l'affaire des disparus. En fait, les prédateurs rappliquaient puisqu'on savait que c'était des réservoirs de victimes, d'enfants qui n'avaient aucun droit. Finalement, c'était le même statut que les jeunes filles amérindiennes. C'est des enfants qui n'avaient aucun droit. Les Indiens ont eu le droit de vote seulement en 1960. Donc, c'était des non-citoyens et qui aurait pu croire la parole d'un enfant indien qui serait allé dire qu'il était violé par le prêtre qui en avait la responsabilité. C'était impensable. Personne ne l'aurait écouté. Personne ne les a écoutés.
C'est pour ça que là, je reviens aux disparus de Vancouver. L'épilogue de votre livre revient à ces cérémonies,
à ces
bancs et à ce qu'on appelle le bâton de parole.
Oui.
Expliquez-moi ça, parce que ce sont des cérémonies que peut-être des touristes ont vues, ou des promeneurs ont vues, mais sans comprendre exactement ce qui se jouait, quoi.
Ça, c'est assez complexe. Moi-même, je ne sais pas si je serais... En fait, c'était une culture très forte, très puissante et très belle, celle de tous ces Amérindiens du Canada. Donc là, c'est des rituels à chaque fois différents pour rendre hommage aux... En fait, c'était des populations qui avaient une mystique très forte, évidemment. Et c'est vrai que je ne saurais plus dire les détails, mais c'était des civilisations très, très riches et je trouve largement aussi intéressantes que les nôtres.
Et c'est simplement... tous ces drames, évidemment, les Amérindiens en conservent la mémoire.
Ils se battent, elles se battent. Les femmes sont particulièrement courageuses. Oui, ils se battent, on l'a vu avec l'histoire des pipelines aux États-Unis. Ils sont vraiment pleins de courage. J'ai une amie écrivaine amérindienne de Vancouver, Eden Robinson, qui fait des livres remarquables et qui donne des cours. Ils ont un courage absolu. Il y a aussi des groupes de musique comme Red, le nom m'échappe, mais les jeunes se jettent dans la bataille. Ils font de la musique, ils font plein de choses. Il y a des sculpteurs Aïda, c'est vrai, après ce génocide orchestré...
Aïda, c'est une...
C'est une magnifique civilisation de Vancouver qui, d'après Claude Lévi-Strauss, c'était une des formes d'art les plus abouties du monde. Et pour moi, c'est la forme d'art que je préfère au monde, tellement elle est somptueuse.
Je vous remercie beaucoup, merci infiniment Lise Fontaine, à la fois d'avoir rendu public par ce livre à l'époque cette histoire épouvantable de Robert William Picton, et puis je rappelle les titres de ces deux livres, au moins pour se dire là, ça, c'est pas une histoire de tueur en série, Kill the Indian in the Child, là, c'est un document hein, paru chez
Non plus
Oscar
qu'un document,
Edition.
Parce que c'est l'enfant qui raconte, et c'est un roman, un récit,
oui.
Et voilà, c'est plus qu'un document. Voilà. C'est un beau texte littéraire, pardon. Hein,
faire ma pub. Ben non, mais vous avez bien raison.
20 ans de travail.
Oui, oui, absolument. Donc, on vous l'accorde. Et Les Filles de l'Aigle, donc chez Gallimard, cet album, sous forme de conte, voilà. Est beaucoup plus positif parce que ça se termine bien.
Bah, c'est pour voilà. Les enfants. Bon. Très belles illustrations voilà. De Quentin Duquit.
Je vous remercie beaucoup d'avoir été l'invité de l'heure du crime. L'émission est maintenant terminée.
Merci à vous.